VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Bion, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. On commence par la Côte d'Ivoire. L'ancien président ivoirien Henri Konan-Bédié n'écarte pas l'idée de se présenter à l'élection présidentielle de 2020, éventuellement allié avec l'ancien chef rebelle Guillaume Soro ou avec le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, a-t-il déclaré à l'AFP. Je ne me prononce pas pour le moment, c'est peut-être oui, peut-être non, a répondu HKB quand il lui a été demandé s'il serait candidat lors d'un entretien lundi dans sa résidence de Daoukro, son village natal dans le centre de la Côte d'Ivoire. M. Bédié, qui sera âgé de 86 ans lors du scrutin de 2020, a présidé son pays de 1993 à 1999 avant d'être renversé par un coup d'État prélude à 12 années de crise politique. La RDC est désormais dans l'attente de la confirmation des résultats provisoires de la présidentielle par la Cour constitutionnelle. La haute juridiction doit publier les résultats définitifs qui peuvent encore faire l'objet de recours dans les 10 jours qui suivent. La commission électorale a déclaré Félix Tshisekedi, âgé de 55 ans, vainqueur de la présidentielle devant l'autre candidat de l'opposition, Martin Fayoulou. Mais le mécontentement des pro-Fayoulou s'est également fait entendre et certains de ces fiefs ont été même le théâtre de violences. La communauté internationale, dans une grande majorité, a appelé à la retenue Idrissa Seydi Dia.
La France, elle, est étonnamment montée au créneau pour dire « Il semble bien que les résultats proclamés ne soient pas conformes aux résultats réels et que M. Fayoulou est a priori le vainqueur du scrutin du 30 décembre. » C'est ce qu'a déclaré son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, assurant s'appuyer sur les chiffres de la mission d'observation de l'Église catholique. Les États-Unis, pour leur part, ont réclamé une clarification du résultat. Nous exhortons toutes les parties à rester calmes lors de la poursuite du processus électoral et nous attendons la clarification des questions soulevées lors du dépouillement du scrutin, a déclaré dans un communiqué le département d'État américain. Washington dit par ailleurs relever l'importance de la décision du président Joseph Kabila de respecter les termes de son mandat conformément à la Constitution et de transférer le pouvoir à un successeur. De leur côté, l'Union européenne et l'Union africaine ou l'Afrique du Sud ont appelé au calme. L'UA a appelé ceux qui contestent les résultats annoncés par la CENI à s'abstenir de toute violence et à suivre les voies légales.
Les résultats provisoires des élections législatives nationales en République démocratique du Congo, eux, seront annoncés aujourd'hui même, a indiqué la commission électorale, la CENI, après un premier report hier. Au total, 15 355 candidats ont participé à ces législatives nationales pour les 500 sièges à l'Assemblée nationale de la RDC. Dans la foulée de la victoire historique de Félix Tshisekedi, la diaspora congolaise salue l'issue des urnes qui consacre, selon elle, une alternance démocratique. Eric Maniratiza a joint au Texas, ici aux États-Unis, le représentant adjoint de l'UDPS, Jean-Robert Kumba-Bwebi.
Tout le monde est très content parce que c'est une première fois qu'il y ait renversement de régime par des élections en République démocratique du Congo. Vous soulignerez que tous les autres présidents qui se sont succédés, ce n'est que par les armes et des coups d'État. Mais ça, c'est une première. Et nous l'avions démontré qu'il est possible de pouvoir gagner démocratiquement sans passer par une violence. Et c'est ce que vient de démontrer l'UDPS et ses alliés. Une fois de plus, c'est un sentiment de satisfaction pour nous tous.
Le peuple a voulu un changement, le changement a gagné. À quel changement faut-il s'attendre de la direction de l'UDPS à la tête de l'État?
Après 37 ans de lutte, nous avions observé en détail, en minuscule, tout ce que le pouvoir précédent a démontré comme défaillance. Et bien, nous estimons que c'est le temps pour nous de pouvoir corriger tout cela dans tous les aspects possibles de la vie publique de ce pays-là.
Concrètement.
Et tout d'abord, vous savez qu'il n'y a pas un état de droit dans ce pays-là. On bastonne les Congolais dans les pays frontaliers, les pouvoirs internationaux ne s'inquiètent même pas. Et c'est comme si les Congolais étaient abandonnés à eux-mêmes. À l'Est, on viole, on tue, comme si c'était dans un autre pays. Les Congolais dans leur propre pays ne peuvent pas circuler librement, ils sont comme à l'étranger, abandonnés à leurs précesseurs. L'éducation, n'en parlons même pas, au rabais, il y a tant de mots dont la liste est vraiment exhaustive. Par conséquent, c'est vraiment un travail qu'il va falloir être vraiment abattu de manière à remonter, à redonner à ce peuple-là la dignité qu'il a perdue tout au long des 17 ans du pouvoir en place.
Les Congolais pourraient-ils attendre un léger mieux au niveau du panier de la ménagère?
Absolument, absolument. Ça sera aussi une des priorités pour que ces changements puissent s'opérer. Et d'ailleurs, c'est ça même qui crée la corruption à tous les niveaux. Vous savez qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Et quand on choisit les gens, on les laisse affamés, il suffit de leur proposer quelque chose, ils vont vite sauter là-dessus. Et c'est ce qui se passe actuellement dans ce pays. Donc, nous devons agir. Le pouvoir qui va entrer agira de manière à ce que tout le monde soit averti. Avec le peu qu'on peut le rémunérer, il pourrait être à mesure de pouvoir survivre, mais aussi rester dans la dignité sans lui proposer quoi que ce soit. Donc, je peux affirmer que le peuple peut s'attendre à ces changements.
Jean-Robert Kumba-Bouibi, représentant adjoint de l'UDPS aux États-Unis. Un total de 22 personnes décédées sont mortes dans les manifestations antigouvernementales qui secouent le Soudan depuis 3 semaines, ont annoncé jeudi les autorités, les organisateurs de la contestation, appelant à de nouveaux rassemblements aujourd'hui. En plein marasme économique, le Soudan est en proie depuis le 19 décembre à des manifestations provoquées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Les protestations se sont rapidement transformées en un mouvement contre le président Omar El-Béchir, qui tient le pays d'une main de fer depuis un coup d'État en 1989. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, réclame au gouvernement libyen de prendre des mesures pour protéger les détenus en Libye contre la torture et pour leur accorder une procédure judiciaire régulière dans un rapport publié jeudi. Dans ce rapport, Antonio Guterres évoque notamment la situation des migrants et des réfugiés qui continuent d'être vulnérables à des privations de liberté, des détentions arbitraires et des abus sexuels dans les prisons officielles ou non officielles, ainsi qu'à des enlèvements ou du travail forcé. La coalition internationale anti-djihadiste dirigée par les États-Unis a annoncé aujourd'hui un début de retrait de ses troupes de Syrie sans plus de précision. Cette annonce intervient moins d'un mois après l'annonce par le président américain Donald Trump du retrait de quelques 2000 soldats américains de la Syrie. Plusieurs pays y participent, dont la France et la Grande-Bretagne, mais il n'était pas clair dans l'immédiat si le retrait inclut également les troupes françaises et britanniques déployées au sol. La coalition international anti-djihadiste a été créé en 2014 après la montée fulgurante du groupe État islamique en Syrie et sa conquête de larges pans des territoires syriens et irakiens. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est arrivé aujourd'hui à Bahreïn, première étape d'une tournée dans les pétromonarchies du Golfe. À Bahreïn, siège de la 5e flotte des États-Unis, M. Pompeo doit avoir un déjeuner de travail avec le roi Ahmed, le prince héritier Salman et son homologue Cheikh Khaled Ben Ahmed Al-Khalifa, selon son programme. Le Bahreïn est un ardent soutien pour lutter contre les efforts malveillants de l'Iran dans la région, a déclaré le porte-parole du département d'État. Le médiateur de l'ONU pour le Yémen s'est dit inquiet par l'escalade de la violence après une attaque de drones revendiquée par les rebelles houthis. Outis a appelé les belligérants à la retenue. Dans des tweets postés dans la nuit de jeudi à aujourd'hui, le Britannique Martin Griffiths a exhorté toutes les parties au conflit à exercer de la retenue et à éviter toute escalade supplémentaire. Il a appelé les belligérants à créer une atmosphère propice pour maintenir la dynamique positive générée par les consultations en Suède et la reprise du processus de paix yéménite. Des élus républicains et démocrates accompagnés d'amis de Jamal Khashoggi et d'organisations de défense de la liberté de la presse ont marqué jeudi au Congrès américain les 100 jours de l'assassinat du journaliste saoudien en lui rendant un vibrant hommage. Jamal Khashoggi, qui vivait aux États-Unis et collaborait avec le journal Washington Post, a été tué au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, où il était allé faire des démarches pour son futur mariage avec une jeune femme turque. L'ONG Amnesty International avait appelé plus tôt jeudi à ouvrir une enquête internationale placée sous l'autorité de l'ONU sur le meurtre de Jamal Khashoggi. Et deux reporters birmans de Reuters accusés d'atteinte au secret d'État pour avoir enquêté sur un massacre de musulmans rohingyas par l'armée en Birmanie ont été condamnés aujourd'hui de nouveau en appel à 7 ans de prison. Wallon, âgé de 32 ans, et Kiao So-Ou, âgé de 28 ans, a été de nouveau reconnu coupable d'avoir enfreint la loi sur les secrets d'État qui date de l'ère coloniale. Les deux reporters sont accusés de s'être procuré des documents relatifs aux opérations des forces armées Biman. Jean-Roger Billon à ce micro, prochaines infos dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.